porte, armement des toboggans, vérification de la porte opposée.
De 10h à 11h, tout l'été.
Décalage immédiat.
Philippe Robichon avec Manuel Mariani.
Décalage immédiat.
Sur Beurre FM.
Décalage immédiat, j'espère que vous avez fait vos voyages 10h-11h. Vous savez que tout cet été, on voyage sur Beurre FM avec Manuel Mariani. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe.
Le globe-trotteur de la gastronomie et l'estomac de la gastronomie mondiale.
Eh oui.
Eddy Nedjari, comment allez-vous Eddy?
Bonjour, merci, ça va et vous?
Bonjour Eddy.
Très bien, chroniqueur, c'est vous qui nous aidez à préparer cette émission tous les jours.
C'est ça, on compte sur vous. Si vous avez les meilleures adresses, les restaurants, les hôtels, les activités ou encore les monuments dans vos villes du Maghreb, on compte sur vous pour appeler au 01 53 48 3000.
Notre invité aujourd'hui, destination Oran, c'est Fouad Soufi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes
Bonjour et merci pour votre invitation.
Eh bien, écoutez, merci d'y avoir répondu. Vous êtes historien, chercheur et ancien conservateur en chef des Archives nationales d'Oran. Alors, le nom de Oran viendrait d'une tragique histoire d'amour.
Ah bon?
Ouais, le fils du vizir de Cordoue qui aurait donné son nom à la légende, à la ville d'Oran, selon une légende. Vrai ou faux?
Je pense que c'est quand même d'abord un. C'est du berbère, hein, c'est pas de l'arabe.
Alors, ça vient d'où? Racontez-nous.
Oran, c'est le pluriel de. Ça se traduirait par lion.
Waran, c'est ça?
Waran, c'est donc les deux lions, comme Tiaret, Tiert, la lionne. Donc c'est un mot quand même d'origine. Maintenant, ceci dit, effectivement, on est parti dans toutes les directions. Un petit peu pour éviter cette origine berbère, d'ailleurs, hein, très souvent. Hein. Donc après, c'est parti dans tous les sens. Je crois qu'il faut savoir raison garder et rester à l'explication première et la plus raisonnable.
Oui, qui semble logique
c'est
en plus.
C'est un mot berbère.
D'accord.
C'est un mot berbère.
Mais pourquoi Lyon, finalement? En quoi les lions sont-ils liés à cette ville d'Oran?
Ah ben parce qu'il y avait des lions dans le nord de l'Afrique.
Oui, les derniers lions d'Afrique étaient justement dans la région d'Oran, si j'ai bien compris.
Bon, peut-être pas les derniers.
Enfin, les derniers lions d'Afrique du Nord, pardon, pas d'Afrique, pardonnez-moi.
Voilà, les petits lions, hein, c'est pas les gros lions de la savane. Donc, des lions d'ailleurs très souvent domestiques, et je sais pas comment qu'ils faisaient, mais bon.
pour leur faire les ongles, c'était pas très pratique.
C'était des gros chats.
Oui, des gros chats, oui.
Donc, il y a quand même à côté d'Oran, il y a la montagne des lions.
D'accord.
Il y a une montagne qui s'appelle la montagne des lions.
Mais il y a un couple de lions aussi à Oran qui gardent la ville.
Bon, mais ça vient effectivement du fait que Waran signifie les deux lions. Donc un sculpteur a placé deux lions.
Alors ce sont exactement les mêmes que...
Devant la mairie d'Oran d'ailleurs.
Voilà, et d'ailleurs sur l'entrée arrière de l'hôtel de ville de Paris, il y a exactement les mêmes lions qui ont été faits par le même sculpteur. C'est des copier-coller, voilà, c'est exactement les mêmes. Ils ont pris le même moule, on va dire. Hein.
Probablement.
Ouais.
Probablement. Et comme les Oranais européens et algériens étaient facétieux, donc il y a eu la bonne blague. Pourquoi les lions sont devant la mairie? Parce que les ânes sont à l'intérieur.
D'accord.
En quoi Oran a-t-elle une histoire particulière?
C'est pas toi qui a inventé ça, hein.
Non, mais c'est la petite histoire, là aussi.
Bah non, ne vous fâchez pas avec les Oranais, vous y êtes encore, donc.
Oui. En quoi c'est surtout qu'ils le racontent.
Bien, en quoi est-ce qu'Oran a une histoire particulière, monsieur Soufi?
C'est ce sur quoi, personnellement, je m'étais penché un temps. Parce que bon, on me disait qu'Oran c'est une ville coloniale, Oran c'est une ville espagnole. Effectivement, Oran c'est une ville coloniale, Oran c'est une ville espagnole, mais c'est une ville qui a quand même un peu plus d'une histoire un peu plus riche. C'est tout simplement parce qu'elle s'inscrit, hein, elle s'inscrit dès sa fondation réelle au début du Xe siècle dans les conflits géopolitiques de l'époque entre les Fatimides qui étaient chiites. Hein, les Omeyyades de Cordoue qui étaient sunnites et donc qui ont cherché à avoir un pied dans le nord de l'Afrique et ils ont choisi Oran. Voilà, c'est pas un... Et donc il y a eu des guéguerres entre toutes ces tendances politico-religieuses, hein, qui ont fait que la ville est devenue une sorte de fixation sur des conflits politiques dès pratiquement le 10e siècle. Dès le 10e siècle, dès sa fondation. Voilà comment elle apparaît en tous les cas dans l'histoire. Et ça va être le cas. Ça va être le cas ensuite quand les Espagnols eux-mêmes vont s'installer, vont prendre la ville. D'ailleurs, très souvent, j'ai envie de dire de reprendre la ville, parce que les Omeyyades étaient aussi des Espagnols.
Oui, enfin, les Espagnols reviennent plusieurs fois.
Hein. Et voilà. Et donc, ils vont revenir, ils vont reprendre la ville. Et quand la ville va être prise, elle va devenir là aussi l'objet de fixation de tous les responsables ottomans qui vont s'installer à Alger pour avoir la légitimité politique et religieuse. Il faut délivrer Oran.
Qu'est-ce qui fait Fouad que cette ville a été aussi convoitée par autant de monde? C'est sa situation géographique qui était intéressante militairement. C'était son agriculture. Qu'est-ce qui explique qu'on se la soit autant disputée?
C'est un peu tout ça, mais c'est d'abord et surtout ce qu'on appelle aujourd'hui Mersel Kébir, la rade de Mersel Kébir, qui protégeait tous les ports et qui pouvait recevoir autant de navires qu'il pouvait en avoir. Et ça, ce statut, Mersel Kébir va le garder jusque dans les années 1940.
Oui, donc c'est commercial et militaire à la base, l'engouement pour Oran.
C'est d'abord militaire, ça devient commercial, Oran devient une ville riche. Et on a des descriptions comment que les Espagnols se sont, comment les propagandistes espagnols ont mobilisé la population, leur promettant évidemment toutes les richesses de cette grande ville. Et on raconte que lorsque les soldats affamés de Guadalajara et de Murcia, etc., sont arrivés à proximité de la ville, ils se prenaient pour les croiser devant Constantinople. C'est exagéré, mais enfin, ça a fait venir des soldats espagnols.
Est-ce qu'on peut dire que
1500.
D'accord. Mais alors est-ce qu'on peut dire que parmi tous les colonisateurs qu'il y a eu successivement dans la ville d'Oran, est-ce que ce sont les Espagnols qui ont le plus marqué quand même?
Non, c'est pas comme ça que je pose la question. Vous savez, quand on remonte jusqu'aux Romains, les Romains ne sont pas vraiment installés à Oran. Non.
D'accord.
Ce sont vraiment les Cordouans qui ont choisi, au lieu d'aller vers la ville romaine de Portus Magnus ou le comptoir phénicien, ils sont allés au milieu, entre les deux. Donc c'est pas, non, au contraire, alors là il y a un grand débat entre les Espagnols, nos amis espagnols et nous. Est-ce qu'Oran a été enclavé ou pas? Nous, on est méchants, donc on dit que par rapport à l'arrière-pays, Oran était enclavé. Mais c'est vrai que la distance entre Oran et le premier port, Alicante, je crois que c'est Alicante, Almeria, espagnol, c'est une nuit. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de ville enclavée.
Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour le patrimoine et les gens ont envie de partir à la découverte des choses. De cette histoire, aujourd'hui, à Oran, qu'est-ce qu'il reste et qu'est-ce qu'on peut en voir?
Ah ben, ce qu'on peut voir, ce que je le dis, et bon, je ne suis pas le seul, c'est le génie militaire espagnol. Je crois que c'est ça ce qui fait la particularité dans le patrimoine oranais, c'est les réalisations du génie militaire espagnol. C'est extraordinaire.
On le retrouve dans l'architecture, dans les bâtiments, dans la conception des rues.
Pas tellement ça, mais dans les forts militaires qu'ils ont construits, la manière de relier ces forts militaires entre eux, par des souterrains, un jeu de lumière aussi, la nuit et même de jour avec le soleil, comment le fort de Santa Cruz pouvait continuer à, même encerclé, pouvait continuer à vivre dans l'isolement le plus total grâce à l'humidité, à les pluies, comment qu'ils captaient l'eau, etc. Et puis ensuite, on va retrouver d'abord les ingénieurs qui ont construit tout ça, on va les retrouver en Amérique du Sud et dans les Philippines. C'est pas le contraire. On va les retrouver là-bas.
Mais
là-bas, Vallejo, etc.
Monsieur Soufi, pour quelqu'un qui n'est jamais allé à Oran, qu'est-ce qu'on appelle Santa Cruz?
Alors, Santa Cruz, c'est le fort militaire qui domine la ville.
D'accord.
C'est un fort. Où que vous soyez à Oran, vous voyez un Santa Cruz.
Alors, quand on le voit de haut, ça ressemble à un fort à style Vauban, un petit peu. Quelle est la vraie architecture de ce fort?
On a l'impression, c'est pas dans le style de Vauban. On a l'impression que ça a été taillé dans la montagne.
Oui, c'est ça, avec des arêtes un petit peu. Enfin, c'est vrai que ça fait très martial hein, comme architecture.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que lorsqu'on va un peu plus vers l'ouest, on ne le voit plus. Il se fond dans la montagne. Et pourtant, il est là.
D'accord. Alors, à côté de ce fort, il y a un chemin qu'on appelle le Caminito de la Muerte ou le petit chemin de la mort.
De la mort.
D'où vient le nom de ce chemin? Ça donne pas envie d'aller le visiter.
Même moi, j'y vais pas tous les jours. Hein. Moi aussi, j'aime pas trop conduire par là-bas parce que c'est plein de virages. Quoique ça a été largement amélioré ces dernières années, on est un peu plus quand on conduit, hein, en sécurité, effectivement, les virages sont moins agressifs parce que ça monte, hein, ça monte et ça monte bien.
D'accord. Et donc ça vient de là, c'est parce qu'il y avait des accidents, c'est pour ça qu'on l'a appelé le petit chemin de la mort.
Ah oui, ça ne peut que venir de là. Sans compter qu'il y a sur la corniche ce qu'on appelle le saut du cheval, où un des sultans d'une dynastie a trouvé la mort avec sa femme, ils se sont sauvés, et puis ils ont raté probablement, pour parler vulgairement, hein, le virage, donc et le cheval,
le cheval a fait une petite sortie de route, on va dire.
Voilà, mais il n'en est plus ressorti du tout après.
D'accord. Voilà. Alors, vous parliez justement du côté militaire, de l'architecture militaire et autres, et du fait que les troupes pouvaient rester à l'intérieur des fortifications. Ils avaient la nourriture, ils avaient l'eau, etc. J'ai vu que dans la Casbah, il y avait également des silos qu'on avait enfermés à l'intérieur des fortifications. Est-ce que c'était pour pouvoir garder effectivement du blé à l'intérieur? Parce qu'il y a une légende autour de ces silos avec un boa ou.
On est dans la petite histoire, mais effectivement, de toutes les façons, la ville était imprenable. Sur le flanc de la montagne, la Casbah, ce qu'on appelle la Casbah, c'est la citadelle. Hein. C'est la citadelle. Même les Espagnols ne pouvaient pas la prendre. Ils l'ont prise après d'âpres combats et, la trahison d'un fils de Caïd qui s'était soumis à eux, etc. Mais autrement, ils n'auraient pas pu rentrer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette ville était effectivement riche en tant que principale ville économique du sultanat de Tlemcen. Et c'était là que se rencontraient tous les commerçants venus des différents ports de la Méditerranée occidentale et les produits qui remontaient par Tlemcen et qui venaient de l'Afrique subsaharienne, de Gao, Tombouctou, etc. Ils se négociaient à Tlemcen et puis ils partaient pour être embarqués à Oran. Et ça donnait une ville très riche. Enfin, des habitants, en tous les cas, relativement riches. Voilà le... Et les travaux actuellement archéologiques, c'est essayer d'exhumer un petit peu tout ce qu'il y a sous la ville européenne et sous la ville espagnole. C'est-à-dire qu'il y a des substrats comme ça, des strates plutôt, mais les travaux sont en cours. Quoi.
L'histoire n'a pas encore dit tout son dernier mot.
Il y a une tranche d'histoire, sous le sol.
La Terre n'a pas encore dit son dernier mot. Et puis, il y a eu... Oran va profiter d'un grand Bey ottoman, Algéro-Ottoman, comme je les appelle, qui, lui, va sortir la ville de ses murs et va la construire là où se trouve actuellement la grande place d'Oran, la mairie, le théâtre, etc., en concédant une partie à la population juive qu'il avait ramenée d'Oujda, de Tlemcen, de Mascara, et il leur avait donné ces terrains.
Bien, on s'arrête un instant, on aura l'occasion de continuer cette histoire. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on continue de visiter Oran. Décalage immédiat, c'est jusqu'à 11h sur Beurre FM.
Destination Soleil.
Sur les plus beaux sites du Maghreb, 10h-11h, décalage immédiat sur Beurre FM. Beurre FM, 10h-11h, décalage immédiat.
Et nous sommes à Oran ce matin, capitale mondiale du cinéma. Salia Djilani nous a rejoint. Bonjour Salia, responsable des éditions Maghreb, des guides Le Petit Futé. Eddy Nedjari nous a rejoint également. Bonjour Eddy. Et puis Kouider Metaïr est avec nous. Bonjour Kouider.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur de l'association Bel Horizon, une association culturelle qui vise à préserver le patrimoine oranais et en faisant découvrir la ville grâce à des visites guidées.
Hors des sentiers battus.
Ouais, c'est ça qui est important. Vous formez des guides et vous connaissez, Quider, votre ville sur le bout des doigts. Vous connaissez tout le monde à Oran. Cinéma et Oran, c'est une histoire d'amour.
Ben oui, depuis maintenant quelques années, Oran est la capitale du film arabe. Et donc, ça se tient tous les ans.
Et c'est ce soir que le festival ouvre, hein, le 11e festival international d'Oran du film arabe, avec le premier film en compétition ce soir.
Exactement. Donc, c'est parti pour une dizaine de jours. Et donc, ça réunit à peu près toutes les dernières productions des cinéastes arabes, mais en même temps par extension de la Méditerranée.
D'accord. Est-ce qu'il y a des banderoles partout, comme à Cannes, à Oran? Est-ce qu'on sent vraiment que la ville vibre au son du cinéma?
On ne la sent pas totalement, parce que Oran a perdu la plupart de ses salles de cinéma. Maintenant, ça va se dérouler uniquement dans 3 salles. Et bien sûr, toute proportion gardée, on ne peut pas la comparer à Cannes, hein, parce que Cannes exprime aussi une rencontre internationale du monde entier. Ici, c'est limité à une rencontre géographique, le monde arabe, mais en même temps, quelques pays méditerranéens, qu'à chaque fois, il y a un pays qui a invité, l'Espagne, la France, l'Italie, etc. Et donc, mais on ne ressent pas cette... En plus, c'est en plein été, il y a une canicule, et donc ce n'est pas tout à fait la fête. D'ailleurs, les productions, les projections se font en fin d'après-midi.
D'accord. Quelle température il fait, Quider, aujourd'hui à Oran, pour qu'on ait un petit peu une idée?
Bon, 30-32, mais comme il y a de l'humidité, et des fois, on se sent un peu sous serre. Bon, la température ressentie, elle est un peu plus haute.
J'ai presque envie de vous dire qu'il fait frais par rapport à la France, hein, aujourd'hui à Oran.
Oui, oui, absolument.
Ah oui, on est très chaud à Paris.
J'ai regardé la météo un peu en Europe. C'est vrai qu'il fait relativement frais.
Alors, c'est le film égyptien Karma qui fait l'ouverture ce soir, hein, du festival du réalisateur Ghaleb Youssef. Et il y a un documentaire, donc tout le monde attend la projection, hein. C'est le documentaire de Malek Bensmaïl qui est allé faire un documentaire sur un film, alors qui est un chef-d'œuvre du cinéma. Et donc, c'est La bataille d'Alger. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Eddy?
Il y a deux documentaires sur la bataille d'Alger. Il y en a un, donc celui-là que vous parlez avec Malek Bensmaïl, et il y en a un deuxième avec Mohamed Najib Lamraoui et Anwar Smaïn, qui seront en course avec La Page Blanche et Battlefield.
Donc ce sont des documentaires qui sont attendus. Les stars sont logés où, Quider, pendant le festival du film?
Ils sont logés dans les grands hôtels, hein. Sheraton, l'Hôtel Royal.
Essentiellement à l'Hôtel Royal, qui est un hôtel magnifique quand même. Je ne sais pas si Quider...
Je connais
bien, et c'est vraiment un hôtel qui a été construit dans les années 20, qui a été très bien restauré. Donc quand on y va, on est vraiment à la fois en France, en Algérie, quelque part en Orient, c'est magnifique.
Et qui est l'hôtel des people de passage à
aussi,
Oran.
Aussi, bien sûr. Bon. Après, il y a des touristes lambda aussi, c'est quand même accessible au niveau tarifaire. En réservant un petit peu à l'avance, bien sûr.
Évidemment.
Alors, Quider, vous proposez des circuits touristiques aux gens qui viennent dans votre ville. Il y a beaucoup d'Oranais qui, finalement, peut-être vont avoir envie de visiter la ville et de porter un autre regard sur leur ville. Quels sont les circuits que vous proposez, par exemple?
Ah ben, le circuit carte postale d'Oran, c'est pratiquement Santa Cruz. Parce qu'au niveau du sommet de la montagne, on retrouve et le mausolée musulman, ou la Qadr al-Jilani. Ensuite, en contrebas, le fort espagnol Santa Cruz. Un peu plus bas, la chapelle de Notre-Dame du Salut. Et donc, c'est un parcours qui peut donner une idée du patrimoine oranien. En plus, on peut observer la ville d'en haut, et même l'arrière-pays. Et de l'autre côté, on peut observer la magnifique baie d'Oran et de Metz-Sikibir. Ça, c'est un circuit inévitable. Ensuite, il y a le circuit Front de Mer avec l'architecture moderne. Ensuite, Il y a l'intérêt, ça dépend de l'intérêt. Alors, nous, on peut proposer, par exemple, les repères Camus Musée, puisque Camus a écrit, nous a collé la peste à Oran.
C'est le cas de le dire, oui.
Très bien. Et en même temps, dernièrement, on a...
Mais attendez, Quider, justement, ce circuit camusien, à quoi il ressemble?
Ah ben nous avons pris, par exemple, la peste et
le roman de Camus.
Le Minotaure, oui, et le Minotaure. Et on a essayé de trouver les repères. Bien sûr, on a fait un circuit adaptable à la marche. Et donc, on restitue un peu la lecture de certains nombres de textes qui parle un peu de la ville d'Oran, et en même temps, on se promène, tout en se promenant dans la ville. Donc on commence généralement par là où il habitait, au 67 rue Larbi de Midi, ex-rue d'Arzeux. Ensuite, on va à la place d'Antiquoire, où on va faire jouer à des jeunes de l'association la partie de boxe entre la Gérois et l'Oranais, et ainsi de suite, jusqu'à la mairie, une mairie prétentieuse gardée par deux lions débonnaires, etc. Voilà.
Oui, parce que Camus, bizarrement, il aimait pas tant que ça Oran, finalement. Quand on fait le circuit, c'est vrai qu'on se dit, il est assez ironique dans ses textes, quand même. Je pense que c'est important de le préciser, étonnamment.
Oui, il n'a jamais aimé Oran, mais il y a des explications à ça. Hein. Il était au chômage, il avait la tuberculose, il voyait la vie en noir. Donc, voilà. Mais par contre, quand il se déplaçait dans les places, il a écrit des textes incroyables.
C'est ça qui est génial, quand même.
Quider, quels sont les clients de vos visites, les gens à qui vous faites visiter Oran? Est-ce que ce sont des touristes lambda, étrangers? Est-ce que ce sont des jeunes dont la famille est originaire d'Oran mais qui connaissent pas bien la ville et qui veulent renouer un peu avec leurs racines? Quelle est la typologie? Est-ce qu'il y a une typologie de au niveau des clients à qui vous faites visiter le
Il y a
Oran?
Il y a un peu de tout ça, mais en même temps, nous, le premier groupe cible, c'est la population locale hein, qui connaît très peu l'histoire et le patrimoine de la ville. Et donc, pour la population, toutes nos visites sont ouvertes et gratuites. Maintenant, sur demande, que ce soit des anciens résidents à Oran ou des diplomates ou des entreprises nationales de télécommunications, par exemple, ou d'une multinationale de pétrole, ils veulent faire visiter leur... Là, c'est tarifé. Voilà.
Vous pensez que l'instauration d'une vraie politique patrimoniale à Oran, elle passe aussi par la sensibilisation des habitants d'Oran à leur propre patrimoine?
Exactement. Mais maintenant, nous avons constaté une augmentation de la conscience patrimoniale, que ce soit au niveau de la population.
Oui, elle est assez récente, cette prise de conscience, quand même.
Elle est assez récente, parce que même du point de vue législatif, c'est 1998, et les décrets d'application de 2003-2007. Donc, c'est assez récent. Et pour vous dire un peu, pour vous donner un exemple, le samedi, on a fait une randonnée pédestre en plein canicule de Happy, du centre-ville jusqu'au Fort Santa Cruz. Et ça a été mené par les pouvoirs publics, par le préfet lui-même. Donc il y a des élus, etc. Dont certains découvrent pour la première fois la richesse patrimoniale d'Oran. Donc la randonnée reste la marque de fabrique de notre association.
Qu'on peut qualifier du coup d'association d'utilité publique, Quider.
Oui, parce que essentiellement, nous travaillons dans l'éducation citoyenne et la sensibilisation de la population, et toutes nos activités se déroulent dans l'espace public ouvert pour que la population puisse bénéficier de nos activités.
Alors, si on parle comme la gare, hein, dont on a parlé nous lundi avec le style néo-mauresque, est-ce qu'il y a des personnes qui font visiter la gare, qui font visiter l'opéra, par exemple?
Ah oui, maintenant, la gare, c'est incontournable aussi, parce que non seulement c'est le style néo-mauresque, parce qu'elle ressemble de loin à une mosquée avec le minaret, etc.
Parce qu'on parlait de la poste d'Alger, vous voyez, on parlait de la grande poste d'Alger, et effectivement, la gare d'Oran aussi est un symbole de cette architecture.
Exactement, il y a un journaliste français, en même temps photographe, qui a fait une exposition de toutes les gares au Méditerranée,
Et d'après lui, dans sa dernière conférence faite à Oran, il a jugé que c'est la plus belle gare de la Méditerranée. D'autant plus qu'à l'intérieur, on a gardé la symbolique des trois communautés. On a le croissant musulman, la croix chrétienne et l'étoile israélite. Et donc, c'est encore gardé et ça renvoie à une pratique du train par les trois communautés. Et donc, tout le monde se retrouvait à l'époque. Donc, c'est assez bien fait, assez bien entretenu. Et c'est surtout maintenant visité par des fins connaisseurs.
Philippe, on peut peut-être en profiter pour rappeler les coordonnées de l'association Bel Horizon, si les auditeurs veulent faire appel à Quider et à ses collègues pour visiter la ville, parce que c'est vrai que tout ce que vous nous dites, ça donne envie. Donc l'association Bel Horizon, il y a un site internet, donc c'est oran-belhorizon-toutattaché.com et un numéro de téléphone, le 213, l'indicatif pour l'Algérie, suivi du 41 41 41 80. C'est bien ça, Quider.
C'est ça, oui. Mais on est plutôt maintenant sur les réseaux sociaux, Facebook, etc.
Oui.
Et je pense que Saléha a référencé l'association dans son livre.
Oui, 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 bien
sûr. Dans le petit futé Oran.
Oui. Dans le petit futé Oran, effectivement, votre association est bien traitée.
J'ai testé les circuits qui sont vraiment passionnants. Hein. Je ne les ai pas tous testés, mais ceux que j'ai faits, on ne s'en lasse pas.
Je vous signale qu'il y a eu aussi... un reportage sur Yves Saint-Laurent qui est sorti.
Voilà, je voulais qu'on parle d'Yves Saint-Laurent, Quider, c'est important quand même, c'est une figure importante.
Qui, contrairement à Camus, aimait la ville.
Il
a toujours regretté de l'avoir.
Et peu de gens le savent, on associe tellement Yves Saint-Laurent à Marrakech que les gens oublient que Yves Saint-Laurent, à la base, c'est Oran.
Ouais, jusqu'à l'âge de 18 ans, l'essentiel de son inspiration, l'arc sabri au garde officiel. Il a pris des senteurs d'Oran. Hein. Et donc, on a tendance à négliger cet aspect. Mais je pense qu'on va y remédier parce qu'on travaille sur un espace muséal, Lydia et Saint-Laurent. Et dans le dernier livre consacré à la dernière édition, Laurence Benahim consacre un chapitre à Oran. Ce qui est important, c'est juste un bon retour des choses.
Laurence Benahim, qui est la biographe d'Yves Saint-Laurent.
Quida, je pense que tu avais rencontré Yves Saint-Laurent, le compagnon d'Yves Saint-Laurent, si je me souviens bien.
Pierre Berger, oui.
Est-ce que c'est possible de nous en parler un petit peu?
Oui, Pierre Berger est venu directement de Marrakech, sur Oran, et on l'a pris en charge au niveau de notre association. Et on a fait une très belle visite, et on a visité pour la première fois sa maison à la rue Stora. Et en même temps, sa villa a trouvé. Et donc, il a été vraiment très, très, très ému. Et ça se sentait. Et en fin d'après-midi, il a fait une grande conférence. Comme c'est un très bon orateur. Et il y avait quand même, je pense, 800 ou 1000 personnes dans la grande salle de l'hôtel du Méridien. Et il a été vraiment impressionné. Et d'ailleurs, l'idée est venue de lui, hein, de faire quelque chose pour la ville, parce qu'il ne voyait pas un peu l'importance d'Oran dans l'imaginaire, mais aussi dans la vie de Saint-Laurent. Et sur cette base, on a commencé à travailler, à prospecter justement, pour consacrer un espace muséal, pas nécessairement un musée, hein, un espace dédié à Saint-Laurent et à la mode. Et il a expliqué justement aux Oranais que Yves Saint-Laurent, c'est d'abord, il voulait habiller la femme qui travaille, la femme qui conduit, la femme. C'était assez impressionnant de restituer l'objet artistique d'Yves Saint-Laurent.
Est-ce qu'il y a des circuits Quider pour les gens qui font du vélo? Est-ce que vous faites visiter Oran et sa région en vélo?
Bon, il y a un groupe vélo et VTT qui fait énormément de choses très très intéressantes, avec lesquels on peut les brancher. Le vélo maintenant est en train de se développer de manière visible dans la ville de Rennes, et surtout les groupes VTT. Alors les amateurs de groupes VTT peuvent venir à Oran et trouver un peu leur plaisir.
Vous avez parlé de Trouville à l'instant, hein, puisqu'il y a deux maisons Yves Saint-Laurent, hein, à Oran. Il y en a une qui est à Trouville. Trouville, c'est comme la ville en France, en fait, finalement.
Oui, c'est les mêmes noms. À l'époque, on est les mêmes noms.
Et ça a gardé aujourd'hui cet appel. Oui,
bon, On l'appelle toujours Trouville. Hein. Je ne sais pas si on l'a débaptisé, mais on l'appelle toujours Trouville. Il y a Bouisville, Trouville, Clairefontaine, etc. On a encore ces noms en tête. Hein.
Les estivants sont déjà arrivés ou ça ou c'est pas encore tout à fait arrivé à Oran?
Ah, c'est plein de crack, les plages. Hein. Donc c'est difficile de trouver. Bon, mais pour les vraiment amateurs, là aussi, il demeure encore à Oran des criques sauvages. On peut s'exprimer sans qu'il y ait un encombrement.
Voilà.
Mais les plages les plus prisées restent les Andradous et Madère.
Pour les auditeurs de Beurre FM, Couder, hein, si on veut aller dans une crique cet après-midi, on va où?
Ah ben dans les criques de Christel. C'est juste à côté d'Oran. Malheureusement, il y a encore des travaux sur la route, puisqu'il y avait une extension de la route. Il y avait plein de virages, etc. Et donc, les pouvoirs publics ont décidé d'élargir et de créer aussi une route qui relie Oran à Arzeux, à 40 km. En passant par Christel. C'est vraiment le chemin qui va rivaliser avec la corniche côté ouest.
Salia.
À Christel, il y a un très bon restaurant qui s'appelle le Petit Chalet, qui domine vraiment Christel. On a une vue imprenable sur la mer, on est sous les pins, c'est un endroit magique, avec une petite gastronomie algérienne, un peu contemporaine aussi. Je recommande vivement, je pense que Couder doit connaître. Et c'est vraiment un endroit superbe.
Oui, alors on mange souvent sous les pins à Oran, Couder. Est-ce que il y a beaucoup de forêts de pins à Oran?
Oui, il y a beaucoup de forêts de pins. Bon, on a quelques départs d'incendie chaque année, mais on participe dès l'automne, on participe à du reboisement.
Là, vous parlez en Corse, donc on a l'habitude chez nous aussi. Hein.
Voilà, mais donc avec la conservation des forêts, nous avons un protocole d'accord. Et on mène des volontariats de reboisement dès l'automne pour pouvoir récupérer ce qui a été perdu. Mais l'essentiel, Dieu merci, est préservé au niveau de la ville d'Oran.
On a les meilleurs guides d'Oran aujourd'hui. Couder Métaïr, vous restez avec nous. Eddy Nedjari, dans un instant, on va pouvoir gagner le guide du Petit Futé consacré à la ville d'Oran.
Exactement. Beurre FM vous fait gagner le guide d'Oran offert par notre partenaire le Petit Futé. Pour cela, il faut répondre à la question suivante. D'où vient le nom de la ville d'Oran? Pour cela, il vous suffit d'appeler le standard au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
On visite Oran jusqu'à 11h, ce Beurre FM.
Destination Soleil.
Sur les plus beaux sites du Maghreb. 10h, 11h. Décalage immédiat. Sur Beurre FM. Beurre FM, 10h, 11h, décalage immédiat.
À Oran aujourd'hui, Oran, on pourrait faire une émission par jour sur Oran, tellement la ville est passionnante. Oran, capitale mondiale du cinéma aujourd'hui, puisque ce soir démarre le 11e festival international d'Oran du film arabe, avec la projection d'un film égyptien. Nos invités aujourd'hui, Salia Hadj Djilani, qui est avec nous, qui est responsable des éditions Maghreb, des guides Le Petit Futé. Couder Métaïr, qui est président fondateur de l'association Bel Horizon à Oran, il connaît Oran mieux que sa poche. D'ailleurs, Emmanuel Mariani et Eddy Nedjari sont avec nous. Et je rappelle que ce matin, vous gagnez un guide Le Petit Futé pour la ville d'Oran.
Exactement, on gagne le guide d'Oran, offert par notre partenaire Le Petit Futé. Pour cela, il fallait répondre à la question suivante. D'où vient le nom de la ville d'Oran? Pour cela, il vous suffit d'appeler le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Il y a un piège, hein, ça n'a rien à voir avec des fruits. Alors, les bonnes adresses d'Oran, d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de bonnes adresses. Salia, vous parliez du Petit Chalet tout à l'heure.
Oui, le Petit Chalet, qui est un restaurant donc, à Christel, qui est une petite ville, un petit village de pêcheurs, en fait. Et vraiment, je recommande ce restaurant pour sa vue et pour ses très bons poissons, ses fruits de mer, qui sont préparés par un chef. Qui est quand même formé à la gastronomie à l'étranger, en Algérie, et il se déroule très très bien.
Vous avez parlé d'une petite gastronomie algérienne, d'accord? Tout à l'heure, ce que vous avez dit.
Bon, alors
on a souvent des discussions sur la gastronomie algérienne. Qu'est-ce que vous entendez par là, Salia?
Ah, oh, c'est une question qui mériterait des heures et des heures d'émission.
Parce qu'on parle toujours de la gastronomie marocaine, et moi je pense que la gastronomie algérienne est sous-estimée parce que peu diffusée, parce qu'elle sort pas des familles,
oui.
et que c'est une gastronomie qu'on ne mange pas au restaurant.
Tout à fait.
Il n'y a pas de gastro algérien, par exemple. Un restaurant gastronomique algérien, il n'y en a pas.
Non, mais c'est un sacrilège, Philippe, d'aller manger un couscous au restaurant, par exemple. C'est un sacrilège, oui. C'est une insulte à sa mère, à sa grand-mère.
Mais on peut pas réduire.
On ne mange pas le couscous au restaurant.
On ne va pas réduire la gastronomie algérienne au couscous, d'ailleurs.
Non, mais je vous donnais un exemple, oui, Philippe, mais c'est vrai pour tous les plats de la gastronomie algérienne. Bon, on l'a vu quand on parlait effectivement d'Alger et de sa gastronomie. À Alger, bon, il y a une gastronomie locale, algéroise, mais aussi nationale qu'on peut trouver sur place. Mais les restaurants ne sont pas si nombreux que ça, en fait. Hein, parce qu'on mange, ou alors on mange des grillades, des poissons grillés, des viandes grillées.
Salia, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là?
Alors,
qu'est-ce que vous avez mangé qui était bon, là?
Bon, en fait, on va parler d'Oran. Alors, c'est surtout les fruits de mer, les poissons, les grillades. En fait, réellement, c'est ce qui fait le charme d'Oran.
Voilà,
c'est
les produits de la mer.
Les produits de la mer, mais qui arrivent de la mer, quoi. Ça n'a pas fait des heures de transport. C'est très frais. Et à Oran, vraiment, c'est ça. Après, la gastronomie algérienne, il faut savoir qu'elle est incroyablement variée. C'est vrai, très méconnue. Mais chaque région a son plat. Et il existe des gens aujourd'hui en Algérie qui travaillent vraiment sur cette gastronomie pour la revaloriser, qui écrivent des ouvrages, qui passent dans des émissions télé algériennes pour même la faire connaître auprès des Algériens. Et c'est vrai que la définir comme ça, ce serait... Il faudrait plusieurs émissions.
On parlait de la Kalantika pour parler...
Ah, la Kalantika,
voilà. Voilà, si on parle d'Oran... Voilà.
C'est Oranais. Alors, c'est très simple, en fait. C'est une farce à base de pois chiches. Qu'on met dans un sandwich, hein, et en fait on la mange à toute heure du jour ou de la nuit. Il y a des gens justement en fin de soirée qui vont manger de la Kalantika pour se requinquer un petit peu, on va dire. Donc, mais c'est à l'origine un terme espagnol, parce qu'il faut savoir que les Espagnols, ils ont une grosse influence.
Oui, c'est la Kalantita.
Voilà, c'est ça, qui a été un petit peu, disons, transformé, hein, avec le parler local, quoi. Donc, mais c'est vraiment, j'en ai mangé parce que je vous avoue que je connaissais pas, parce qu'en fait je suis plus de la région d'Alger, moi, à l'origine, et j'ai trouvé ça très bon. Mais chaque petite échoppe a sa recette, hein. Donc il y a des gens qui aiment telle échoppe, enfin c'est toujours bon, mais chacun ses goûts. Après,
on va à Marseille, et Nordine nous appelle de Marseille. Il a composé le 01 53 48 3000. Bienvenue, Nordine.
Oui, bonjour, l'équipe de choc.
Comment ça va, Nordine?
Bonjour, Nordine.
Ça va très bien, il fait très très chaud. Et cet après-midi, on va à la plage.
Bah, j'ai bien raison. Vous êtes à quelle plage à Marseille?
Ah ben, normalement, c'est à la Couronne ou Carrie ou Saucy-les-Pins.
Très bien. Est-ce que vous voulez garder un guide pour visiter Oran?
Oui.
Eh ben, je crois qu'il faut répondre d'abord à une question qu'Eddy vous rappelle, Nordine.
D'où vient le nom de la ville d'Oran, tout simplement?
Alors, si je ne me trompe pas, Oran, d'abord, s'appelait Ehran. Ehran veut dire les deux lions.
Voilà.
Donc, à partir de là, c'est le nom d'Oran qui vient de cette appellation d'Ehran.
Très bien.
Si je ne me trompe pas.
C'est gagné.
Bah, vous avez raison. Vous ne vous trompez pas.
Oui, parce que je suis d'Oran, moi.
On va vous embaucher. Hein.
Salia va vous faire les you-you.
Ah ouais. Non, j'ai pas trop de voix aujourd'hui que de la canicule, mais demain peut-être.
Oui, juste un truc. Vous avez oublié un spécialiste de la paella à Enetur qui s'appelle Hash Paella. Je sais pas si vous connaissez.
Ah, le Hash Paella, alors ça, oui, effectivement.
Oui.
Il n'y a pas de chorizo.
C'est un petit restaurant, mais il fait de la bonne paella.
C'est vrai.
Et il vous la prépare devant vous, hein.
Alors c'est vrai qu'Oran est une ville, on trouve plus de paella à manger à Oran que de couscous, justement,
oui,
on en parlait.
Ah oui,
parce que effectivement, ouais, l'influence hispanique, puis il y a une grosse communauté espagnole à Oran, font que on trouve des beaucoup de restaurants qui proposent de la paella, et en plus elles sont très bonnes.
Alors Nandine, vous avez bien raison, c'est vous qui nous ouvrez votre adresse ce soir. Donc vous allez tous manger chez H Paella de la part de Nordine. Quel est l'endroit de la ville que vous préférez, vous, Nordine?
Alors, il y a le centre-ville, mais moi, je préfère le front de mer. Je préfère le front de mer.
Ouais,
Qu'on a une domination sur le port. Bon, maintenant, il y a Oran 2. Avant, c'était Oran 1. Maintenant, il y a Oran 2. C'est la deuxième ville d'Oran qui longe les quatre tours en cristal, là, en verre. Ça, c'est la construction de la deuxième ville.
Oui, c'est une ville en pleine
expansion.
Oran,
maintenant, c'est prolongé, carrément. Vers Gambetta, vers Cité Protin, etc.
Nordine, écoutez, on vous prendra comme guide également, alors.
Ah oui, moi je suis né là-bas, j'ai fait mes études là-bas et tout, donc je connais très très bien.
100% oranais.
Juste un truc,
oui.
La Carantica,
oui.
Avant on l'appelait le steak blanc du pauvre.
Bah oui, parce que c'était des protéines végétales.
Ah oui, maintenant c'est devenu autre chose. Maintenant il y a des. Avant c'était des petites carrioles, des petites boutiques. Maintenant c'est carrément des grandes salles avec.
Ouais, maintenant c'est dans les restaurants, c'est des restaurants de Carantica, voilà. Maintenant.
Mais ça c'est populaire.
Ah, exactement.
Incroyable. C'est quelque chose que vous mangez, vous, ça, Nordine?
Oui, quand je descends au rang, je la mange, même ici, hein, à Marseille, et ma femme, elle la prépare, comme elle est dorante, comme moi, donc elle sait la faire, donc il n'y a pas de souci. Ben, si vous passez à Marseille, on vous la préparera.
Ah, on arrive.
Plaisir, c'est moi.
On arrive.
Pas de souci. Vous êtes les bienvenus.
Eh ben,
donc, merci. Nous, à Marseille, on a le soleil, la bonne mer, L.O.M.
Merci Nordine.
Merci Nordine à vous.
On prend vos coordonnées, vous restez en ligne et vous recevez votre guide du petit flûté oranais dans quelques jours. Merci Nordine. D'autres adresses, tiens, à Oran, Manu.
Alors, il y a une adresse que je trouve sympa. C'est un restaurant qui est sous une kaïma. Une kaïma, c'est une espèce de tente arabe, hein, qu'on trouve normalement plutôt dans le désert ou dans la campagne. Alors, sous cette tente, il y a une déco qui est faite de briques, de brocs. Il y a des vieux bibelots, etc. Alors, c'est vraiment des paysans. Et puis, on mange de la cuisine. Là, on mange de la cuisine algérienne. On peut manger de la chorba afrique, la chicha. Le mtewen, la rechta, du couscous, et puis le couscous algérois, mais aussi d'autres types de couscous. C'est dans le quartier des Castors, pas très loin du souk des voitures. C'est ouvert midi et soir, et puis c'est assez bon marché. Donc rue Mimoun Bouadiem, ça s'appelle la Kaïma Beni Chougran.
Quider, les.
Ce que vous retrouvez dans le petit futé d'ailleurs.
Je confirme.
Alors Quider, les stars qui sont là pour le Festival international du film arabe d'Oran, elles vont manger où le soir?
Ben, un peu partout, hein. C'est-à-dire, il y a libre, ils peuvent aller au Corsair, manger du poisson. À Beni Chougran, goûter la cuisine traditionnelle. Ou bien aller jusqu'à la corniche, chez Hesh Paila, prendre une paella.
Ah,
il y a
oui.
Beaucoup de restaurants qui font de la bonne paella ici.
Et en parlant d'influence espagnole, je voudrais parler d'un petit restaurant qui est quand même incroyable parce qu'il est là depuis 1946 et c'est des pieds noirs espagnols qu'il avait mis en place. C'est la famille Martinez, tout le monde les connaît, ils sont toujours là, hein, les descendants d'Espagnols. Ils sont pas partis, bon, il y a eu la guerre, il y a eu les années noires, mais ils sont restés parce qu'ils adorent Oran et ils adorent l'Algérie et c'est des gens... Qui sont vraiment très touchants et qui préparent une cuisine vraiment oranaise avec cette influence espagnole, avec du bon poisson, des crevettes. Et c'est à Bousfer, donc une petite commune juste à côté d'Oran qui est balnéaire, qui est très sympa. Et on a pareil une très belle vue sur la mer. Après, le restaurant, il paye pas de mine comme ça, mais qu'est-ce qu'on y mange bien?
Principal, voilà, c'est qu'on mange bien.
Voilà.
Et donc, ça s'appelle comment?
C'est chez Martinez. Tout
chez Martinez.
Parce que là, c'est l'arrière-grand-père qui l'avait fondé, Antonio Martinez. Et puis.
Quider, il y a un restaurant aussi dont on avait déjà parlé une fois qui s'appelle la Comète à Oran, qui est un petit peu le rendez-vous des Oranais de souche, on va dire. Est-ce que c'est un restaurant vraiment où se retrouvent les Oranais le soir pour manger, pour boire un verre? C'est un restaurant qui est connu, la Comète à Oran.
Oui, c'est un très bon restaurant. Il ressemble à une taverne. C'est assez petit, c'est à l'échelle, comme on dit.
Oui, c'est un petit estaminet, oui.
On mange très très bien et on sert de la boisson, toutes sortes de boissons. Et c'est assez sympa aussi, c'est en face de l'ancien Café Riche.
D'accord. Bon, si vous validez, je donne l'adresse à ce moment-là. Le restaurant La Comète, c'est au 1 rue de la Paix à Oran. Le numéro de téléphone, le 41 29 45 84. Et puis là aussi, on mange pour pas trop cher. Par contre, c'est fermé le week-end. Hein. Vendredi, samedi soir, c'est fermé. Mais c'est ouvert tous les autres jours de la semaine.
Après, il y a aussi des adresses pour boire un verre quand même à Oran.
Oui, salut, allez-y.
Donc, il y a le bar Le Pacha à l'Hôtel Royal qui est vraiment incroyable. qui est...
C'est un peu le bar Hemingway d'Oran.
Oui, voilà, on peut dire ça. Et c'est, ce qui est bien, c'est que bon, les filles, quand elles sortent entre copines, elles sont tranquilles là-bas, personne ne va vraiment les embêter, elles peuvent boire un verre, discuter, refaire le monde, et c'est assez accessible au niveau tarif. L'ambiance est très cosy. Et après, on peut continuer en allant au bar Cosy, qui est en fait qui appartient au Four Points, avec une vue incroyable sur la promenade qui est justement...
Qui appartient au quoi ?
Au Four Points Hotel. C'est donc il y a une très belle vue aussi sur la mer pour le coucher de soleil, c'est juste magnifique. Et puis on peut aller aussi au Voile, c'est un nouveau bar lounge du Sheraton qui est au 18e étage. Et là bon bah c'est sublime aussi quoi. Si vous voulez voir le coucher de soleil, ouais,
c'est des filles qu'on est goût de luxe hein là.
Non,
le Four Points, le...
Non parce que c'est des endroits pour sortir, on veut parler d'Oran côté jet set, glamour, on va là-bas.
Ouais.
Et il y a le Balbec aussi qui est pour faire la fête le jeudi avec un DJ, une ambiance orientale et en même temps branché.
Le comment vous appelez ça ?
Le Balbec.
Le Balbec.
Figurez-vous que la propriétaire qui s'appelle Fouzia, parce que c'est une femme qui tient ça avec beaucoup d'énergie et de passion, et en fait elle, ça lui faisait penser à Proust tout simplement par rapport à la Madeleine, parce qu'avant elle vivait dans ce quartier qui est donc le quartier de Canastel, qui est un quartier très résidentiel, et elle a décidé, après avoir voyagé un peu partout dans le monde, d'en faire un restaurant lounge. Et aujourd'hui, toute l'Algérie connaît cet endroit où on peut vraiment faire la fête de façon... à la fois branché et en même temps un peu débridé parfois, mais c'est très bien parce que c'est aussi au rang.
Alors j'ai un message qui me dit que le 18e étage du Sheraton, c'est l'étage VIP. Hein.
Ah non, mais les voiles, non, tout le monde peut y aller, de ce que je
sais. C'est
vous y allez de la part de Salia et vous laissez
bon, rentrer. Bon, alors on verra. Hein si vous avez un problème.
Alors Salia, justement, j'ai l'impression que si on veut sortir un petit peu le soir à Oran, si on veut aller boire un verre, les endroits ouverts un petit peu tard, c'est surtout effectivement les bars d'hôtel, parce que les bars qui sont dans les rues d'Oran ferment quand même super tôt, parfois 20h30, 21h, 22h, et encore 22h, c'est rare.
C'est très vrai. Donc voilà, vous pouvez aller au Balbec. Ça, c'est pour ça que je cite ces adresses. Parce que étonnamment, la vie nocturne, elle reste assez limitée quand on sort de tout ce qui est cabaret. Et il y a quand même ces adresses-là, heureusement. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a
vous l'aurez compris, Salia est notre jet-setteuse oranaise.
Non, mais j'ai posé une faire la fête, ce serait pas Oran.
Une question, je ne sais pas si je peux vous la poser à vous, Salia. Mais vraiment, si je cherche une chicha ou un endroit, par exemple, pour boire un café le soir...
Ça, c'est pas très compliqué.
Faire une petite partie de domino...
Non, mais ça, vous n'aurez aucun problème.
Ça, il y en a dans toutes les rues,
Salia. Mais il n'y a pas zi endroit.
Je vous avoue que je ne suis pas très partie de domino, malheureusement. Mais
vous devriez. Ça vous ferait un bien fou. On va se mettre au domino.
Je vais me mettre au domino et la méditation, pourquoi pas. Mais non, malheureusement, je suis pas spécialiste de domino, mais je suis sûr que vous allez trouver, vous demander à n'importe quel oranais, il va vous donner sa petite adresse.
Je vois que vous me laissez en rade, là. Vous voulez m'envoyer au 18e étage du Sheraton.
En rade d'Oran.
Ouais,
mais il y a quand même une adresse aussi qui est très sympa pour sortir, boire des verres jusqu'à pas d'heure. Ça s'appelle le Méloman. Et cette adresse-là, c'est vraiment une adresse mythique d'Oran. C'est-à-dire que tout le monde la connaît. Il y a un écrivain très connu qui s'appelle Kamel Daoud qui y va tout le temps. À la fois, il y a des petits vieux qui y vont, il y a des jeunes, tout le monde se mélange avec une très bonne ambiance.
Le Méloman.
Ouais. Il y a du karaoké, c'est un peu kitsch parfois. Faut quand même
c'est quoi alors, on peut chanter du quoi, par exemple?
Tout ce que vous voulez.
Ah ouais.
Vraiment tout ce que vous voulez, ça va de la variété française en passant par des tubes Chabi, du rail. Et donc, bon, parfois les gens sont un petit peu alcoolisés, donc c'est très drôle. Et je tiens à préciser quand même qu'il y a une petite anecdote pour le côté people. Hein, bon. C'est que Yasmine Amari, c'est la fille du propriétaire. Yasmine Amari, c'est une chanteuse d'origine algérienne qui était récemment dans The Voice, dans l'équipe de Florent Pagny, et qui a fait la fierté des Algériens, parce qu'elle a quand même... Elle s'est pas mal débrouillée.
Elle a performé, oui.
Voilà, et là, vous pourrez rencontrer son frère, Kader, et le père, Bouzid, qui sont vraiment des figures locales.
Eddy, est-ce que vous avez des anecdotes sur Oran, le cinéma ?
Cinéma à Oran,
c'est... C'est la capitale, là, cette semaine, hein. Faut y aller.
Forcément, si on parle de cinéma, on va remonter dans les années 60, puisque c'est le début des tournages dans la ville d'Oran. C'est un des premiers films qui a été tourné à Oran, c'est Le Vent des Aurès de Mohamed Lakhdar Amina, en 67.
Énorme film.
Donc Mohamed Lakhdar Amina qui a gagné la Palme d'Or en 75 avec son film Chronique des années de Brèze. Ensuite, on a souvent des films qui ont pas vraiment, qui étaient plutôt destinés à nous, public français. Chouchou de Gad Elmaleh par exemple. On va retrouver Babelwed avec Faudel, Samina Seri dans les années 2000, en 2005 exactement. Et après, on va avancer. On a la trilogie des livres de Yasmina Kadra qui ont été retranscrit au cinéma par
Jean-Médaline Guy. Yasmina Kadra.
Oui, exactement.
Il n'y a pas un film avec Julie Gaillet aussi?
Exactement.
Elle est partout, Julie Gaillet.
Justement, dans Babel, oui.
Elle est à l'Elysée, au Festival de Cannes, à Oran.
Et après, quand on avance...
Enfin, maintenant, c'est Brigitte à l'Elysée.
Oui. Maintenant, c'est Brigitte. Ah oui, non, mais bon.
Une dernière anecdote sur le cinéma.
On a souvent les films pour la nouvelle génération, comme Né quelque part, Certifié Allah, le Lavage de Mohamed Hamidi en 2016 avec Jamel Debbouze.
Ah oui, Jamel Debbouze, excellent film. Quel film magnifique.
Incroyable, je recommande aussi.
Merci Eddy, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Kouder Métayer d'avoir été avec nous, meilleur guide d'Oran.
Merci.
Vous acceptez le compliment.
Que d'émotion.
Vous demandez Kouder hein, pour faire la visite de la ville. En tout cas, vous avez toutes les informations.
Bel horizon.
Merci à vous. Si vous voulez qu'on parle de votre ville, vous pouvez également nous le faire savoir. Il y a une adresse mail, Manu.
Absolument. Donc, vous nous écrivez sur tourismebeurrefm, tout attaché. Vous mettez pas de point, pas de tiret. tourismebeurrefm@free.fr. Si vous avez un spot incroyable à nous soumettre dans une ville, ou si vous voulez tout simplement qu'on parle de votre ville parce que vous estimez que c'est la plus belle ville d'Algérie ou du Maroc ou de Tunisie, eh ben, vous nous écrivez et puis on regardera ça avec beaucoup d'attention.
Et demain, nous pousserons les portes de la Casbah d'Alger. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain à 10h.
Jusqu'à 11h, décalage immédiat sur Beurre FM.